Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Anna Segalevich et Emmanuel Dupuis se font face à notre affiche Lire, l'opéra d'Aribert Reimann, direction musicale de Fabio Luizzi, mise en scène de Calixto Biglietto. C'est à l'opéra de Paris. Nous parlerons d'un coffret de 3 CD de Wanda Landowska au piano, consacré à Mozart et Haydn. Et puis nous évoquerons la 4e édition du festival Palazzetto Bruzzane à Paris, théâtre des Champs-Élysées au Bouffes du Nord. Et surtout, ce sera l'occasion pour nous de parler du compositeur Benjamin Godard. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Laure Kruger jusqu'au 24 juillet au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le comédien et metteur en scène Michel Faux, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle production de l'opéra d'Aribert Reimann, Lear, d'après Shakespeare, qui n'avait plus été donné à l'Opéra de Paris depuis sa première française en 1982. Pour rappel, c'est le grand baryton allemand Dietrich Fischer-Dieskau qui avait démarché tout d'abord Benjamin Britten pour qu'il fasse un opéra de cette pièce. Proposition déclinée par celui-ci, puis le chanteur sollicita Aribert Reimann, avec qui il donnait très souvent des récitals. Lui aussi déclina, mais l'idée fit son chemin, puis une commande déclenche l'écriture de cet opéra que Fischer-Dieskau chantera lors de sa création en 1978. C'est Beau Scovus, ça va être mieux comme ça, qui le reprend à Garnier sous la direction de Fabio Luizzi, mise en scène Calixto Biglietto. So weihe Haupten stimme du, dein Blut ist nicht das meine, du bist mir fremder als der Wilde, der sich am Fleisch der eigenen Kinder mästet. Halt, bin ich! Kennt! Tritt nicht zwischen sie und mich! Cornelil! Rieden! Teilt euch Cornelias Erbe! Nein! Schreibt! Ich wickel dir die Liebe! Hier auf den Augen! Der Bogen ist gespannt, gehen fein auf den Weg.
Mach ihn nicht treffen, was willst du, alter Mann, dann du? Soll ich nicht reden, was pflicht ich, da die Muskels meine Eichheit? Wenn meine Kultur heig wird, ist doch ein Heig dir!
Hältst dich gegen meine Frucht, drum steh dich fort. Fünf Tage bleibe hier, dann will dich unser Auge nicht mehr sehen. Voilà pour cet extrait de Lear d'Aribert Reimann. Et c'est Emmanuel Dupuis qui va commencer.
Volontiers. Alors, tout d'abord, bon, il faut préciser que le Lear de Reimann ça n'est pas le lire de Shakespeare, bien que Shakespeare de la pièce, mais évidemment c'est beaucoup plus condensé et il y a des tas d'aspects de la pièce de Shakespeare qui sont atténués ou qui passent carrément à la trappe.
C'est une réduction.
Voilà, c'est une réduction.
Qui se concentre sur des personnages principaux.
Et c'est tellement concentré que, surtout, bon, ce qui caractérise cet opéra, c'est la violence. La violence que le compositeur a mise dans sa musique, on l'a entendu même... ne serait-ce qu'à travers ce court extrait, et cette violence qui est quasi permanente, surtout pendant la première partie. Et cette violence-là, Calixto Bellito en a fait la matière première de son spectacle. Il y a une véritable concordance entre l'univers visuel, l'univers théâtral et l'univers sonore.
Qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, en réalité, c'est un spectacle qui peut sembler dépouillé, puisque le décor, c'est simplement quelques planches de bois noircies qui laissent passer la lumière, qui forment au début une muraille. Moi d'ailleurs, bon, ça m'a étrangement fait penser au début au décor que conçoit Pierre-André Weitz pour Olivier Py. Mais bon, simplement parce que c'est... ces planches noires avec ces cirées de lumière, effectivement, on a vu ça.
Il n'y a pas de tournette.
Il n'y a pas de roulette.
Et ces planches noires, ensuite, à la fin de la première partie, pivotent pour former comme une forêt très inquiétante. Donc, il y a vraiment très, très peu de choses au niveau du décor. Mais en même temps, c'est un spectacle d'une très grande densité, mais d'une très grande densité physique. Parce que ce qui caractérise les rapports entre les personnages, c'est la maltraitance permanente, quoi. Ils passent leur temps à se tabasser les uns les autres, à s'humilier et finalement à s'entretuer. C'est vraiment sans concession. C'est certainement pas un spectacle pour les âmes sensibles, parce que c'est quand même assez, assez extrême. Et ça l'est d'autant plus extrême qu'il y a une vérité de la direction d'acteur, moi, que j'ai trouvé absolument phénoménale et qui est extrêmement rare sur les scènes d'opéra. C'est-à-dire que pour Bellito arrive à faire du corps des chanteurs la chair à canon du combat qui mène sous nos yeux, et c'est assez époustouflant. Et on lit même dans les corps des chanteurs une forme de déchéance, et c'est vrai évidemment pour le personnage principal, le lyre qui est chanté par Boscovus, qui au début est un personnage assez flamboyant, et qu'on voit petit à petit mais déchoir, s'avilir, et à la fin il termine presque nu, juste en caleçon et sale et incontinent, et son corps immense, parce que Boscovus, c'est quelqu'un qui c'est un beau mec pour parler clairement, mais là on le voit.
C'était le Don Giovanni de Tcherniakov à la première distribution.
C'est vrai. Exactement, Don Giovanni, il a tout pour chanter Don Giovanni, pour incarner Don Giovanni. Mais là, on le voit tout recroquevillé, et à la fin, il y a cette image magnifique où Cordelia berce le corps immense de son père, comme la Pietà de Michel-Ange. Et voilà, cette transformation, c'est vraiment assez phénoménal.
Alors c'est vrai qu'on attendait, hein, les débuts de Calixto Bellito en mise en scène à l'Opéra de Paris. On en a pu voir sur d'autres scènes européennes, en DVD parfois. On avait parlé d'ailleurs ici d'un Boris Godounov qui était pas absolument réussi, enfin à mon goût et à mon souvenir. Anna Segalevitch, sur ce lyre.
Moi, j'étais très emballée, franchement, par cette production, parce que ce qui est très réussi, c'est que toutes les énergies, en fait, et les talents convergent pour porter haut l'œuvre. C'est-à-dire que il s'engage pour la porter avec un engagement et le plus de justesse possible. Ce qui est beau dans la mise en scène de Calixto Bellito, c'est qu'il a effectivement tout centré sur les rapports entre les personnages et sur la façon dont ça vit sur scène. Et ça joue absolument tout le temps. Il y a peu de choses, hein. On est même dans le symbolisme. Ouais. Au départ, Lyre arrive avec une miche de pain, c'est peut-être le seul
accessoire
qui existe vraiment. Donc il arrive avec une grosse miche de pain de cour, tous les autres personnages arrivent à jardin, il y a un silence, d'ailleurs il se plante sur scène d'abord, donc une dizaine de personnages, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnages, hein, chez Lyre, et c'est complexe à comprendre. Je pense que c'est en ce sens qu'il a eu aussi raison de tout centrer sur les enjeux entre les personnages et sur le fait de très bien les dessiner, les définir, parce que sinon je pense qu'on ne comprend rien en 3 heures de musique aussi violente, etc. et autant de noirceur, tant de personnages, enfin parce que les personnages presque se ressemblent quelque part entre les deux. Bon, alors bien sûr, il y a le personnage de Cordélia.
Il y a un parallélisme effectivement entre l'histoire des trois sœurs et l'histoire des deux frères,
voilà,
les fils de Gloucester.
Qui n'est, je pense, pas évidente à comprendre si on ne connaît pas bien le texte de Shakespeare. Et c'est en ce sens que d'avoir tout centré sur l'intensité des rapports entre les personnages, c'est très réussi. Donc au départ, il arrive en effet ce Boscovus avec une grosse miche de pain. Il dit qu'il va partager son royaume et là il déchire un premier tiers qui jette par terre. Gonril va se jeter dessus, puis Regan aussi, et bien sûr Cordélia non. Et on voit tout de suite les personnages sont croqués immédiatement parce que Gonril et Regan se battent comme des chiennes. Elles sont tout de suite à quatre pattes. C'est vraiment deux harpies d'une violence, d'une noirceur qui est assez confondante, franchement, tout de suite. Voilà, ce qui est très réussi aussi, à mon sens, c'est la direction d'orchestre, vraiment. Plus que exigeante, avec pour les chanteurs d'ailleurs un ambitus complètement énorme, des intervalles très très larges, des notes tenues difficiles, énormément de dissonances, rythmiquement pour l'orchestre, c'est vraiment c'est assez diabolique. D'ailleurs, franchement, je me permettrais pas de dire est-ce que c'est totalement ça ou pas ça. Voilà.
Ça m'a semblé. Avoir la partition sur les genoux pour vraiment en être sûr.
Le compositeur est très satisfait de l'interprétation.
Voilà, bon. Très bien. Alors, très bien. En tout cas, ça marche sacrément en scène. Il y a une spatialisation de l'orchestre qui est très intéressante, je trouve, le fait d'avoir mis les cuivres dans les deux loges qui sont, enfin les quatre d'ailleurs. Il y en a deux à cour et deux à jardin, les plus proches de la scène, parce qu'il y a énormément, pas les cuivres, les percussions, je veux dire.
Les percussions.
Il y a énormément de percussions.
Parce qu'elles ne rentraient pas dans la fosse.
Oui, sauf que ça joue très bien, je trouve,
parce que ça crée une
correspondance entre justement les percussions et les cordes. Il y a un dialogue et ça entoure la scène et la salle. Parce que les éléments, en fait, sont très importants dans lire, la tempête, le vent, la déchéance, etc. Enfin, la violence. Et le fait que les percussions soient placées comme ça, avec les chanteurs au loin, ça enveloppe en fait tout le monde et ça donne, je trouve, très très bien à ressentir les éléments.
Travail musical, Emmanuel Dupuis.
Oui, non, je rejoins ce que dit Anna Selgelevich. C'est effectivement très bien dirigé. Ça gagnera peut-être davantage encore en fluidité,
en tension,
au fil des représentations. Mais déjà, la première, c'était très très impressionnant. Même si après l'esthétique de cette œuvre, c'est peut-être un peu daté, je trouve. Je pense qu'aujourd'hui, on ne ferait pas ça comme ça. On ferait ça. Ce serait moins univoque probablement. Il y aurait beaucoup un peu plus d'ambivalence, parce que là, effectivement, cette violence est quand même assez univoque, même si dans la deuxième.
Tout de suite, elle arrive tout de suite. Ouais.
Tout de suite, et c'est très, très envahissant pendant toute la première partie, et même la fin de la seconde. Après, à la fin de la première partie et au début de la seconde partie, il y a quand même des atmosphères un peu différentes, une atmosphère de désolation et de désastre, quoi. Qui est aussi très, très bien rendu par la mise en scène de Callisto Bielito. Quant à la distribution, oui, alors peut-être que Boscovus n'a pas tout à fait le lyrisme infini de Fischer Disco, mais ce qu'il fait à la fois vocalement et physiquement, comme on l'a dit, est tellement époustouflant que on succombe à cette incarnation. Les trois sœurs sont phénoménales, en particulier et très différenciées vocalement. Bon, Cordélia, effectivement,
Annette
Dash avec un soprano tendre c'est la seule qui apporte un peu de douceur dans ce monde de brut. Ricarda Merbet est
extraordinaire,
mais un monument de sadisme, quoi. C'est incroyable, quoi. Qui lance toutes ces interventions, mais avec l'aplomb d'une Brunhilde. Enfin, c'est phénoménal, quoi. Et il faut citer aussi le contre-ténor, Andrew Watts, qui chante un des deux fils de Gloucester, Edgar.
Qui est excellent, et en voix de poitrine, et en voix de tête,
dans les deux. Avec parfois des envolées élégiaques qui sont vraiment, vraiment magnifique. Donc,
c'est une saison qui finit bien, l'Opéra de Paris. Hein.
Franchement, ce qui est étonnant, c'est à quel point tout concorde. même la distribution, c'est rare de voir autant de personnages avec autant de d'excellents chanteurs, parce que enfin moi je l'ai honnêtement hein, alors je suis peut-être un tout petit peu moins, je serais un peu moins élogieuse que vous sur la Cordélia de d'Anne Dash, parce que je trouve qu'elle a quand même les aigus un tout petit peu serrés. Je sais pas si elle a vraiment les aigus cristallins de Cordélia. Elle a de très beaux médiums, je trouve, mais après je crois qu'elle était malade à la générale, donc peut-être aussi que là elle était un tout petit peu fragile. Mais effectivement, Ricarda Marbette est...
Oui, elle s'écrase toutes, hein, quand même.
Elle, oui, parce qu'en plus elle met beaucoup de chair dans son interprétation. Elle est pleine de fureur et en même temps de sensualité. Enfin, c'est une tornade, la façon dont elle tient les notes, dont elle s'engage.
Elle fait peur.
Ah ouais, elle
fait physiquement peur.
Elle est vraiment terrifiante. Mais l'Edmond de Andreas Conrad
aussi très très bien,
très très bien. L'Edgar d'Andrew Watt, moi je l'ai trouvé aussi magnifique. Le Gloucester, enfin je veux dire, c'est rare hein, qu'il y ait autant à chaque fois que j'en entendais un entrer en scène, je me disais ah mais lui aussi c'est il est magnifique, parce que la façon dont il s'effondre après avoir déshérité Edgar, ou après qu'on lui ait arraché les yeux, ces deux airs-là, je trouve, de Gloucester sont vraiment
très beau, hein.
De toute beauté. Bon. Non, c'est une grande réussite.
Bon, carton plein pour ce
livre. Oui, mais c'est surtout une très grande cohésion, comme je disais, entre la mise en scène et l'œuvre musicale. Et peut-être que le secret d'une grande mise en scène, c'est quand on a un metteur en scène qui sait entendre l'œuvre. Et là, je pense que c'est exactement le cas.
Pleinement le cas. Ben, vous donnez très envie d'aller voir Lire, d'Harry Bernheim. C'est dirigé donc par Fabio Luizzi, mise en scène Calixto Biglietto. C'est au Palais Garnier jusqu'au 12 juin. Et à défaut d'aller voir et entendre, on pourra entendre sur France Musique cet opéra le 18 juin à 19h.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure d'un coffret de 3 CD d'enregistrement de Wanda Landowska consacré à Mozart et Haydn. On retrouvera avant cela l'invité de la dispute, Michel Faux. On évoquera aussi plus rapidement le festival Palazzetto Bruzerne à Paris. Et puis surtout la redécouverte du compositeur Benjamin Godard, festival. Un mot qui évoque encore quelque chose à Antoine Guillot, qui s'est quand même replongé depuis Cannes dans la lecture précise des journaux pour construire chaque soir la revue de presse culturelle de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas que les matchs de l'Euro de football retransmis sur le grand écran pour animer le public massé dans la fan zone du Champ de Mars à Paris. L'Opéra Comique nous apprend une brève de diapason, a confié au chef de chœur Christophe Grapperon le soin de diriger le 18 juin un Opéra hockey, oui, constitué de quelques airs les plus célèbres du répertoire de la salle Favart et ouvert à tous les chanteurs professionnels d'Accentus comme amateurs. Y entendra-t-on aussi quelques vedettes comme la jeune chanteuse et actrice Camélia Jordana, repérée lors du télécrochet Nouvelle Star en 2009, dont une autre brève de diapason nous a appris qu'elle a été nommée le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson, par le ministère de la Culture, membre du conseil de l'ensemble intercontemporain fondé par Pierre Boulez. Ce décloisonnement des genres, c'est de toute façon la grande affaire de toutes les institutions de musique dites sérieuses. Prenez le théâtre des Champs-Élysées, vénérable centenaire, qui cultive la jeunesse et défend une modernité bien comprise, comme le raconte Emmanuel Giuliani dans La Croix. Né en 1913, au temps des ballets russes et du Sacre du Printemps, scandale retentissant lors de la création, la salle développe une politique alliant le prestige du patrimoine musical et la main tendue aux nouvelles esthétiques. Au nouveau public, on ne dira jamais assez, insiste son directeur Michel Franck, combien l'expérience du spectacle vivant est fondatrice pour former le goût et l'esprit critique. On aurait tort d'imaginer que la génération tout numérique ne vibre pas au son d'un grand orchestre symphonique ou d'une superbe voix lyrique, axiome qui se vérifie lors des répétitions d'opéra où sont invités des dizaines de collégiens et lycéens, mais aussi à travers les places à 10 euros réservées aux moins de 26 ans. Nous franchissons un pas supplémentaire avec la production production d'un film d'animation en lien avec le retour d'Ulysse de Monteverdi, spectacle qui sera proposé en février-mars 2017, poursuit Michel Franck. Ce film sera diffusé dans les cinémas, les maisons de la culture, mais aussi au théâtre en version ciné-concert avec l'orchestre et les chanteurs en live, tandis que des acteurs de la Comédie française commenteront l'action entre les passages musicaux. Et après Monteverdi, c'est Rossini et son ébouriffant Barbier de Séville qui feront l'objet d'un dispositif pédagogique inédit la saison suivante. Des jeunes dans la salle, à l'heure où l'on entend régulièrement stigmatiser le public vieillissant de la musique classique, c'est bien, mais des jeunes sur scène, c'est tout aussi indispensable. Nous ne sommes pas les seuls, mais je crois pouvoir dire que le TCE a toujours eu une attention aiguisée à la promotion des nouveaux talents, insiste Michel Franck. Si la formidable mezzo-canadienne Marie-Nicole Lemieux nous est si fidèle, c'est parce que nous sommes de ceux qui lui ont très tôt fait confiance. La saison prochaine, le directeur du TCE invite tous les mélomanes à prêter l'oreille à la voix de Vanina Santoni. Elle chantera la pure et douce Michaela dans Carmen avec Marie-Nicole Lemieux dans le rôle titre justement, mais aussi le Requiem de Verdi sous la direction de Jérémy Rohrer, encore un jeune chef que nous suivons depuis longtemps. Des jeunes sur scène, la salle Gaveau a poussé le concept très loin en accueillant son premier bébé concert, comme l'a rapporté l'Obs, un mouvement de concerto de Chopin pour les 0-3 ans, installé sur la scène tout près des musiciens. Certains enfants ont apprécié, d'autres, paraît-il, sont partis à quatre pattes. Le grand spécialiste du mélange des genres, c'est bien sûr Jean-Luc Choplin. Grâce à lui, rappelle le Parisien, le très classique Théâtre du Châtelet s'est ouvert aux comédies musicales américaines, West Side Story, Singing in the Rain et autres, et aux humoristes comme Florence Foresti ou Valérie Lemercier. Jean-Luc Choplin, qui dirigeait la salle parisienne depuis 2004, a confirmé début février son départ, qui coïncidera avec la fermeture du Châtelet pour travaux d'avril 2017 à début 2019. Le nouveau directeur sera désigné fin 2016. La mairie de Paris, qui finance à hauteur de 17 millions d'euros le théâtre, a salué sa politique artistique audacieuse, éclectique et innovante. Mais qu'on se rassure, celui qui a imprimé sa marque dans le domaine des comédies musicales de qualité, salué à Broadway, pourrait ne pas rester longtemps inactif, nous apprend Martine Robert dans Les Échos. Jean-Luc Choplin croule sous les propositions et non des moindres. Mathieu Pigas aurait pris contact avec lui pour un fonds d'investissement dans la production. Le financier Marc Ladré de Lacharrière le prendrait bien comme conseiller artistique personnel pour la salle Pleyel et le théâtre Marigny. Pas question pour l'homme d'affaires de rater son coup sur la prestigieuse salle de concert du 8e arrondissement au sujet de laquelle il se s'est attendu au tournant. De son côté, Gilles Pélisson, le patron de TF1, allié avec Sodexo Prestige pour exploiter la cité musicale sur l'île Seguin à Boulogne, fait des appels du pied très marqués à son ami de longue date. Jean-Luc Choplin est en effet l'un de ces rares programmateurs capables de faire le grand écart entre la musique savante et le divertissement de qualité. Or, la cité musicale comprend justement deux salles, l'une de 1100 places et l'autre de 6000. En fait, Jean-Luc Choplin pourrait même concilier les deux demandes, car le fondateur de Fimalac a dans son giron nombre de producteurs, tels Gilbert Coulier, capable de remplir de grandes ou moyennes jauges. L'intéressé, lui, réserve encore sa décision. « J'ai monté 70 productions en 10 ans au Châtelet. Je veux souffler, bénéficier d'une certaine liberté, ne pas avoir de responsabilité opérationnelle. Ce sera probablement ma dernière mission et je ne veux pas me tromper », dit le directeur du célèbre théâtre parisien. D'autant que, fort de ses nombreuses récompenses obtenues outre-Atlantique, il est aussi très sollicité par des producteurs américains. On ne s'inquiète donc pas trop pour lui.
Bon, ne nous inquiétons pas, en effet. On a des idées de savoir qui va lui succéder, Manuel Dupuis ?
Non, aucune idée. Non. Mais on espère surtout que le théâtre du Châtelet restera un théâtre dédié à la musique. Et à une musique de qualité, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore gagné.
Bon. Vous réagissiez à la Segalevitch, au TCE, cette grande maison, alors qui soutient des jeunes avec parcimonie quand même.
Oui, avec parcimonie, puis il y en a d'autres qui le font aussi.
Oui, tout le monde fait ça aujourd'hui.
Oui, tout le monde fait ça.
C'est normal. Bon, on a raté les bébés concerts.
Voilà. Bon, après, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que le karaoké sur le Champ de Mars avait des airs d'opéra. Bon, je demande à voir quand même.
Bon, ça, c'est les opérations festives.
Voilà.
Liées à l'Euro du football. Ça. Vous allez chanter, Anna, au Champ de Mars, non?
Non, je ne vais pas infliger ça.
des milliers de gens qui se sont rassemblés. Bon, d'accord. Très bien. Prenons le temps alors de parler de ce festival à Palazzetto Bruzzane à Paris, centre de musique romantique française qui est basé à Venise, où il organise des concerts toute l'année, qui s'exporte une fois par an pour un temps fort à Paris. C'est l'occasion d'une redécouverte ou redécouverte, découverte pour ce qui me concerne, avec Benjamin Godard, dont on va parler. Tout d'abord, dire quelques mots quand même sur ce travail au long cours du Palazzetto, sous l'impulsion du musicologue Alexandre Radwicki, qui fait d'ailleurs la saison passée l'un des invités de la dispute. On a parlé ici, il n'y a pas si longtemps, des Chevaliers de la Table Ronde d'Hervé, qui est une production du Palazzetto Bruzzane, et qui sera d'ailleurs, qui a beaucoup tourné cette saison et qui va continuer à le faire, notamment sera à Paris, à la Téné, Théâtre Louis Jouvet, pour les fêtes de fin d'année. C'est dans une mise en scène de Pierre Andrévetz, justement. Puis il y a le travail d'édition, de disques, bien sûr, ces livres-disques dont on parle très régulièrement, des livres tout court, en coédition avec Actes Sud, bref, une institution privée très active, Emmanuel Dupuis.
Oui, tout à fait. Qui fait beaucoup, effectivement, pour la redécouverte de la musique française du 19e et du début du 20e siècle. Parfois, les choix, on a pu le dire ici, ne sont pas toujours... c'est pas forcément des chefs-d'œuvre oubliés qu'on nous révèle. Là, en l'occurrence, je pense que le travail qui a été fait sur Benjamin Godard était assez utile et que Benjamin Godard est un musicien qui mérite vraiment d'être redécouvert. Donc,
on va commencer à parler de lui. Alors, on écoute d'abord ou on en parle d'abord?
Écoutons d'abord.
On écoute d'abord. Allez, un extrait d'une œuvre de Benjamin Godard, tiré du disque de sonate pour violon. C'est une coédition Palazzetto Bruzzane et Aparté. Qui est-ce? Parce que j'ai pas du
Nicolas
tout le bonheur.
Nicolas Cetricourt et
Dana Ciorcali. Voilà, et on va écouter l'adagio de la sonate pour violon numéro 2.
Thank you.
Nicolas Dautricourt, Daniel Ciorchelli pour ce disque consacré aux sonates pour piano et violon de Benjamin Godard. Alors, tiens, comme vous avez commencé, mais je vais poursuivre avec Anna avant de revenir vers vous, Emmanuel Dupuis. Benjamin Godard, vous étiez familière de son travail ?
Tout à fait, pour être tout à fait honnête, non, pas du tout familière. Et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir ses sonates pour piano et violon et les mélodies, que je trouve aussi très réussi. Je suis un peu moins sensible à la musique symphonique, les symphonies opus 23 et opus 57 qui sont sur un autre disque, parce qu'on a eu donc la chance de recevoir trois disques pour découvrir ce compositeur. Et je dois dire que les sonates pour piano et violon, elles sont vraiment riches, quoi. Elles sont, y a un dialogue qui est très équilibré, je trouve, entre les deux instruments. Il y a beaucoup d'idées. Les mélodies sont belles. Il y a un vrai charme. Il y a un lyrisme qui est assumé. Il y a du sentiment. On s'épanche. Mmh. Et c'est ce qui est beau, je trouve, dans l'interprétation aussi de Nicolas Dautricourt et de Dana Ciocarli, qui assume pleinement ce lyrisme. Ils y vont, il y a de l'ardeur, il y a de la passion, il y a du trouble, il y a de la mélancolie, enfin il y a une palette de sentiments, de richesse d'émotions que je trouve très réussie. C'est bourré d'inflexions, c'est engagé, et donc c'est une belle découverte, hein. Surtout que, alors, ça se faisait pas tant que ça d'écrire, il les a écrites très jeunes, ces sonates, entre, je crois, 17 et 21 ou 22 ans. Et on n'écrivait pas tant que ça de sonates pour piano et violon à l'époque. Ça a été fait plus tard par Franck. Voilà. Et il a des choses à dire, vraiment, ce Benjamin Godard. Et les mélodies, c'est tout autre chose. Elles sont interprétées par Christoyanis.
Avec
Jeff Cohen. Et alors là, il y a notamment six fables de La Fontaine qui sont vraiment des
très savoureuses.
Ah, mais très savoureuses parce que c'est des vraies mises en situation. C'est très théâtral sans être illustratif. C'est-à-dire que on donne le ton, on donne des couleurs, on donne des ambiances et il n'y a pas non plus de façon basique et collée à la vitre les animaux, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment une matière à chanter de façon très théâtrale et on voit absolument toutes les situations. Il y a quelques poèmes de Victor Hugo qui sont magnifiques, notamment la chanson opus 7, numéro 4, qui est pleine de volupté, de torsion, extrêmement sensible et très bien interprétée par Tassis Christoyamis. Donc c'est une belle découverte que ces disques.
Benjamin Godard. Et pour vous, Emmanuel Dupuis?
Oui, non, je partage totalement les avis de Dana, à ce détail près, que j'étais peut-être un peu plus intéressé que vous par la musique symphonique également, parce que je trouve alors peut-être que dans le disque qui vient d'être réalisé par l'orchestre de la radio de Munich, l'interprétation est assez premier degré, quoi, on va dire. Hein, je dirais que ça mériterait davantage de fantaisie, ça mériterait d'être davantage interprété, tout simplement. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une facture très intéressante et une netteté du trait très française, une clarté qui rappelle Gounod, Saint-Saëns, Bizet. J'ai assez aimé ces symphonies et également les trois morceaux, opus 51, qui comprennent notamment une marche funèbre assez belle, je trouve, et à l'opposé, un mouvement qui s'appelle Kermesse, qui beaucoup plein de gaieté, plein de couleurs. J'ai assez imagé, j'ai assez aimé aussi cette musique symphonique. Évidemment aussi beaucoup les mélodies où Godard se montre l'égal des plus grands maîtres du genre, que ce soit du Parc ou Fauré. Et à propos du Parc, Godard a composé une invitation au voyage sur le poème de Baudelaire, comme du Parc, donc, qui est au programme du disque de Tassis Christoyanis. Et je trouve que la version de Godard vaut largement celle de du Parc, très différente, mais tout à fait réussie également. Voilà, et puis bon, évidemment, ce disque de sonate est également très, très réussi. Il faut dire que Godard était lui-même violoniste. Élève de vieux temps, il a composé énormément de musique de chambre, des quatuors, des trios. En fait, Godard laisse un catalogue immense. Hein. Il a composé plus de 160 mélodies et des opéras également. Et il est resté célèbre grâce à un opéra qui s'appelle Jocelyn et qui comporte une célèbre berceuse que tous les ténors ont chantée, de Mania Mamoghigli à Roberto Alagna. La berceuse de Jocelyn, c'est un tube.
Mais là, on découvre tout le reste.
Voilà, hein, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et cette forêt mérite vraiment d'être redécouverte. Et je pense que beaucoup de musiciens auraient intérêt à inscrire à leur programme la musique de chambre.
La musique de chambre, mais complètement.
De Godard. Et même les symphonies mériteraient d'être jouées par les orchestres français. Les orchestres de la radio, par exemple.
Ben voilà, on fait passer le message. Alors, il y a effectivement toutes ces publications discographiques importantes. Et puis, au cours du Festival du Palais des Taubes-Rosanes et à Paris, on pourra entendre notamment le dimanche 5 juin au Théâtre des Bouffes du Nord, Pascal Amoyel, dans un programme qui comprendra Alcan, Chopin et Liszt, mais qui jouera aussi deux études artistiques de Benjamin Godard. Et puis en clôture, ce sera toujours au Bouffes du Nord le 9 juin, jeudi 9 juin, le Quatuor Mosaïque lui donnera à entendre le Quatuor à cordes numéro 2 de Benjamin Godard. Il y aura aussi Debussy et Gounod au programme. Et puisqu'on parlait du TCE tout à l'heure, l'ouverture, ben ça, on pourra en parler quand on l'aura entendu. C'est l'opéra de Gaspard Spontini, Olympie. Vous allez écouter ça, Emmanuel?
Oui, j'ai écouté, mais ça ne sera pas une découverte pour le coup, parce que cet opéra a déjà été joué et même enregistré. Il existe un enregistrement studio avec d'ailleurs Julia Varadi et Dietrich Fischer-Dieskau. Pas d'importe qui.
Ce qui n'est pas tout à fait rien. Enfin, voilà. C'est pas quelque chose qu'on entend tous les quatre matins.
On passe ça très souvent.
Dans une salle de concert ou une maison d'opéra. Voilà ce festival du 3 au 9 juin, Festival Palazzetto Bruzane. Dans quelques minutes, nous parlerons de Wanda Landowska grâce à un coffret 3 CD consacré à Mozart et Haydn au piano. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, le comédien et metteur en scène Michel Faux, riche actualité pour lui à retrouver sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Michel Faux, on poursuit cette semaine en musique, mais on s'aperçoit évidemment au fil des soirs que vous êtes partout chez vous, si je puis dire, parce que vous avez un vrai goût qu'on connaît pour suivre votre travail pour tous les arts. La musique, évidemment, on parlera d'opéra dans un instant, mais votre récital aussi, j'ai eu la chance de voir quelques fois. Vos goûts en musique, ils sont, comme dans les autres domaines, extrêmement variés.
Ah oui, bien sûr, oui. Mais j'écoute de la musique tous les jours. Alors j'écoute beaucoup d'opéra, c'est vrai. Mais hier, j'ai écouté L'Aiglon d'Arthur Honegger, que je ne connaissais pas.
Ah bah c'est la première fois que c'est gravé dans son intégrale. Voilà, on en a parlé dans l'émission il y a quelques semaines.
Donc c'est pour ça. Et puis aujourd'hui, j'ai écouté Sabine de Vielle dans le disque sur Mozart qu'elle a fait avec le génial Raphaël
Pichon. Ouais. Oui.
Moi, je dis toujours que j'aime autant Rameau que Alban de Berg. Voilà, j'ai pas de... D'ailleurs, j'aimerais bien monter un opéra contemporain et j'aimerais bien monter aussi un opéra vériste aussi. Il y a tout un répertoire vériste qui est formidable. Voilà, je suis très ouvert. Moi, ce que j'aime, c'est les choses radicales, excessives et dérangeantes. Et j'aime pas les choses tièdes, donc il y a tout un répertoire qui m'ennuie. Mais à l'opéra, quand même, on est souvent très très servi dans l'intensité, on va dire.
Mais hors de l'opéra, du coup, il y a un peu trop de tiédeur dans ce qu'on appelle la variété, au sens le plus large. Ou est-ce qu'il faut vous aller plutôt, je caricature, mais sur Fréhel et Barbara, mais pas sur Mylène Farmer?
Bien que certains spectacles de Mylène Farmer sont assez baroques.
Ils sont spectaculaires, ça c'est vrai, vraiment. Vrai.
C'est du vrai spectacle.
Oui, oui.
Il y a même des metteurs en scène de théâtre qui pourraient pas aller se rhabiller à côté. Non, mais je dis toujours, moi je préfère Léo Ferré à Ben Habar. Moi je dis toujours ça, mais c'est vrai. Il y avait quelque chose dans la chanson française qui était en plus subversif, en fait. Voilà, qui est le Léo Ferré d'aujourd'hui, quoi. Et dans l'interprétation, et dans le texte, et dans ce que ça dit. Et même, vous parliez de Fréhel, les chansons de Fréhel, elles étaient décapantes, quoi. D'ailleurs, je vais faire cet été un nouveau spectacle de chant où ce sera des chansons réalistes, ce seront des chansons inédites, écrites par Michel Rivegauche, avec des musiques de Jean-Pierre Stora. Donc, c'est des chansons assez récentes qu'il a laissées, qui n'ont jamais été chantées. Mais c'est très inspiré par la chanson réaliste, en effet. Et donc, c'est toujours des choses tragiques, en fait.
Vous avez quelques titres, non, juste les titres en tête, pour nous donner une idée des images. Parce que les titres sont souvent gratinés aussi.
Coup de foudre dans la montagne, la moustiquaire du Caire, le printemps dans le Sussex.
Ah, ça s'annonce bien.
Voilà.
Et ça, quand vous disiez vous écoutez de la musique tous les jours, Michel Faux, est-ce que ça dépend de l'humeur du jour? C'est-à-dire que vous vous levez, vous dites j'ai plutôt envie d'écouter ça. Ouais, est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des rituels, est-ce qu'il y a des...
Je pense. Alors quand je travaille sur un opéra que je dois monter, alors ça je l'écoute en boucle pour le connaître par cœur, mais souvent c'est parce que j'ai envie de monter l'œuvre ou parce qu'elle m'attire ou parce qu'elle m'intrigue.
Alors l'Aiglon, ça va être dur, hein, parce que c'est à peu près immontable. C'était, je ne sais pas combien de tableaux, etc.
Mais beaucoup,
vous aimez ce genre de choses-là, ce genre de défis aussi.
Oui, bien sûr. Je sais pas. C'est pareil à l'opéra. Moi, Jérôme Deschamps était le premier à me proposer de monter une opérette et c'était bien cette idée-là. Mais après, on m'a proposé de monter que des opérettes. Alors j'ai dit non. Et puis après, Raphaël Pichon a eu l'idée super de me demander de monter Dardanus de Rameau. Alors j'étais ravi. Puis après, on m'a proposé que des opéras baroques. Alors j'ai dit non. C'est toujours comme ça. On essaie de vous classer dans un style, et en fait alors je pense pas qu'on peut tout faire. Il y a des choses que je pense qu'il y a des textes de théâtre, des pièces que je ne peux pas jouer ou que je ne peux pas mettre en scène parce que j'ai pas les clés, mais par contre j'aime bien faire des choses différentes, oui.
Mais le travail sur un opéra, pour prendre des exemples sur lesquels vous avez travaillé, il y a des intuitions de départ, il y a des déclics. Comment les mises en scène naissent pour vous par rapport à la musique et au livret?
Moi, j'essaie toujours de prendre le livret au sérieux, enfin au premier degré. On m'avait dit, Dardanus, tu vas voir, le livret est pas terrible. Et en fait, il y a des choses magnifiques, des phrases magnifiques, bouleversantes, des situations tragiques. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est chaotique. Il y a une succession de scènes qui sont très différentes. C'est ça qui a dû déranger à l'époque. Moi, chaque fois qu'on me dit, tu vas voir, le livret est pas terrible, je me méfie parce que souvent, par exemple, le livret du trou vert, moi, ça me bouleverse. Cette histoire de femme qui brûle le bébé, tout ça, ça me met dans tous mes états alors que tout le monde dit, oh, le trou vert, le livret est pas terrible. J'essaie toujours de prendre l'œuvre à la lettre, ou alors je la monte pas, quoi. Si le livret m'ennuie, j'ai refusé beaucoup d'opéras parce que je n'avais rien à dire sur l'histoire que ça racontait. Et après, j'essaie de travailler, en effet, sur le style et puis de réinventer, en effet, ce style. Avec Raphaël Pichon, on a travaillé main dans la main, et quand je travaillais avec Laurence Équilibé sur Ciboulette, elle a consacré un temps énorme sur les textes parlés, ce qui est très très rare à l'opéra.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le jeudi soir à la musique avec une intégrale des enregistrements pour piano de Wanda Landowska. Alors, ce qui est en choix une riche idée, puisque la musicienne polonaise était connue pour son attachement quasi exclusif au clavecin Pleyel, qu'elle avait commandé aux fabricants. Label APR a réuni en 3 CD des enregistrements effectués entre 1937 et 1958, dans lesquels Mozart se taille la part du lion. On découvrira aussi 3 œuvres de Haydn. Avant d'en parler, on écoute l'Allegro de la sonate en sol majeur de Mozart.
Thank you.
pied, soyons triviales un petit peu. Anna Sigalevitch.
Oui, bah oui, je crois qu'on peut, tout à fait employer ce terme que vous employez, Arnaud.
Non, mais c'est un bonheur quand
mais
même. Hein.
Je me souviens, Emmanuel, quand vous avez proposé qu'on parle de ce coffret, vous aviez utilisé le mot passionnant. Et je trouve que c'est vraiment le mot juste, en fait, pour parler de. Pour parler...
Je confirme.
Quel talent, c'est Emmanuel Dupuis.
Non, mais. Parce que vous le dites pas souvent. On dit on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et je me rappelle du mot passionnant. Et c'est vrai. Donc. On la connaît plutôt comme claveciniste, en effet, que comme pianiste. Mmh. Et quelle pianiste passionnante, parce que quelle liberté de ton incroyable. Elle ose des ritenuto, des accélérando, des changements d'humeur qui sont audacieux. C'est un mélange entre quelque chose de très fantasque et de très rigoureux. Mmh, c'est assez troublant, parce que moi, par moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais vraiment, la sonate en fa majeur, à un moment, tout d'un coup, elle ralentit à la fin de la phrase. Je me dis, c'est très, très, très étrange. Puis alors, elle fait des tris aussi. Enfin, elle est étonnante. Elle a une façon, elle est très, très forte, je trouve, pour tous les ornements, parce qu'ils sont tous d'une originalité incroyable, c'est vraiment extrêmement ciselé.
Les cadences du concerto, c'est phénoménal. C'est elle qui écrivait ces cadences, c'est quelque chose. Elle se permet des choses, effectivement, qu'aucun pianiste aujourd'hui
n'oserait faire ça.
C'est totalement assumé et ça marche.
C'est étonnant parce que c'est très construit, c'est très dramatisé, je trouve. Elle raconte vraiment des histoires aussi, tout en restant totalement limpide et naturel. Et donc elle a ce côté mozartien évident, ça coule de source, et voilà, c'est le toucher absolument magnifique, léger, délicat, idéal pour Mozart, avec en même temps un côté plus construit, presque opératique par moment, ou en tout cas de orchestral. Hein. C'est pas du tout un piano plat, c'est un piano qui a beaucoup de relief. Et y a certaines sonates que pourtant, enfin on les connaît par cœur, ces sonates. Où je vous assure, moi j'ai entendu certaines, je me dis, oh, c'est dingue, j'avais jamais entendu ça comme ça. Ça peut être ça, et on sait pas d'où ça va venir. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que ça peut être une ligne de basse, ça peut être la ligne mélodique, ça peut être juste un accord. Ça peut même être juste une note. Là, tout d'un coup, on a entendu, je ne sais plus, un mi bémol à un moment, tac, tout d'un coup, elle le fait ressortir. Et on ne sait pas pourquoi elle le fait, mais il se passe quelque chose. Et donc, elle regorge de surprises. Il y a un esprit que je trouve absolument merveilleux. Je trouve qu'on sent quelqu'un d'une intelligence extrêmement espiègle, enfantide, et en même temps, c'est un piano qui est très plein et très nourri aussi. C'est tout ça à la fois, donc c'est pas mal, quoi.
Donc passionnant. C'est passionnant, ouais. Emmanuel Dupuis.
Oui, ben je rejoins totalement. effectivement, il y a quelque chose d'enfantin, de à la fois très virtuose et très ludique et une apparence de simplicité mais qui n'est qu'une apparence parce qu'en même temps il y a effectivement cette fantaisie, cette imagination folle de l'interprétation à chaque moment mais qui semble couler de source, quoi. Je veux dire, on n'a jamais l'impression que cela va contre l'œuvre, au contraire tout semble accompagner la musique, c'est assez fabuleux. Alors il faut préciser que dans ce coffret de 3 CD, il y a des enregistrements des années 1930.
La qualité sonore est escalée.
Voilà. Le son est d'époque, mais
c'est un témoin.
Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça parce que l'oreille s'acclimate assez
en
vite.
En 2 minutes,
oui.
Voilà. Bon,
on n'avait pas envie de choisir un extrait de ces premiers enregistrements parce que
ça peut rebuter. Mais c'est vraiment, ça serait dommage de se laisser rebuter par ça parce que notamment il y a ce concerto numéro 26, le concerto du couronnement de Mozart. Qui est dirigé par Walter Koerr. Alors oui, le son est d'époque, mais en même temps, il y a une jeunesse, il y a une vie à la fois dans l'orchestre et dans le piano. C'est un piano soprano qui chante tout le temps et avec une variété d'accents et de couleurs et de nuances absolument infinies. Et puis effectivement, ces cadences absolument phénoménales. Donc voilà, ensuite il y a des enregistrements des années 1950 qui n'étaient jamais parus en CD. Alors là, le son est très différent. Mm-hmm. Il y a quelque chose de je trouve que la prise de son assèche un petit peu je pense que ça vient de la prise de son et non pas parce qu'elle jouait sur un Steinway, je pense pas que ça vienne du piano. Donc tout semble parfois un petit peu détaché mais en même temps on a une très grande impression de proximité. Il faut savoir que ces enregistrements ont été réalisés chez elle dans son salon dans sa maison de Lakeville aux États-Unis. Et voilà, on a vraiment l'impression d'être avec elle dans son salon. Et voilà, et là aussi, on retrouve partout, que ce soit dans le les sonates de Mozart, de Haydn, ce jeu qui est à la fois libre, simple, sans emphase et même parfois, pourtant, il y a quelque chose de visionnaire dans son jeu. Parce que par exemple, dans le l'Andante et Variation de Haydn, qui est une pièce d'un seul tenant de 14 minutes, elle commence ça avec... oui, comme je disais par tout à l'heure, cette apparence de simplicité, et en même temps, elle nous emmène comme ça dans cette espèce de long coulé qui est tenu d'un bout à l'autre. Voilà, il y a vraiment la construction de la grande arche de ces 14 minutes, c'est assez phénoménal. Quoi.
Sur Haydn, quelques mots, Anna Segalevich.
Bah oui, non, c'est vrai aussi que stylistiquement, c'est impressionnant. C'est une utilisation du clavier qui est tellement architecturée que c'est troublant. Moi, la fantaisie de Mozart, j'aimerais dire la fantaisie en ré mineur, qui est une œuvre aussi tellement connue, tellement entendue. Elle en fait quelque chose. Je sais pas combien il y a de climat et de couleurs dans ces quatre pages, cette fantaisie de Mozart. C'est, je sais pas combien de minutes ça doit durer, 4 minutes, un truc comme ça, à peine. Et c'est un court métrage, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est vraiment une histoire qu'elle raconte en partant d'un point pour arriver à un autre. À la fois complètement délicate et en même temps complètement cosmique, quoi. Enfin,
elle nous emporte.
C'est tout ça. Et le mot vitalité est très juste aussi, je trouve, Emmanuel, pour ce concerto. C'est vrai que moi, je l'ai ressenti aussi, cette vitalité, cette fraîcheur et cette jeunesse. Dans le troisième mouvement aussi, elle joue des traits qui sont pianissimo, tout comme ça, tac, 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 à la main droite, qui sont aussi, je trouve, qui vous serre le cœur, quoi. Il faut l'écouter, c'est très beau.
Il faut l'écouter, l'acheter, se faire offrir ce coffret de 3 CD Mozart Haydn, The Complete Piano Recordings de Wanda Landowska, coffret 3 CD donc paru chez APR.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu d'hier au soir, Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour le film John Ford de João Nicolau. Je vous avais demandé quel était le nom de cette caravelle qu'on voyait dans son précédent film L'épée et la rose. Il s'agissait du Veracruz.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour l'exposition Laura Kruger. Si vous voulez savoir ce qu'on en pense, vous podcastez l'émission d'hier soir. L'exposition est visible jusqu'au 24 juillet au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Quelle est la question, Antoine ?
Quel hôtel particulier parisien a été affecté à ce musée d'art et d'histoire du judaïsme ouvert en 1998 ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anna Segalevich, Emmanuel Dupuis et Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez donc vous abonner au podcast de cette émission, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Marie Aubert, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Célia Dufour, réalisation Daniel Finot. Je vous retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Éric Loré et Daniel Martin. À notre sommaire, de la nature des dieux d'Antonio Lobo Antunes et l'attentat de Sarajevo de Georges Perec. Nous évoquerons aussi plus rapidement De nos frères blessés de Joseph Andrassé et Fade de Ryoko Sekiguchi. Nous retrouverons Antoine Guillot pour une revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Les choix du comédien et metteur en scène Michel Faux, invité de la dispute cette semaine. Et puis, il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.